Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Ce journal est présenté par les radios associatives de la région avec au sommaire cette semaine les travaux à l'Observatoire du Mont-Aigoual avec un centre d'études du changement climatique qui va s'y installer. Radio Escapade nous livre quelques clés de ce projet hors normes dans ce carnet. La députée de la 4e circonscription du Gard, Annie Chapelier, a annoncé sa démission du mouvement de la République En Marche, tout en restant apparentée à la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Un sujet de Radio Grille Ouverte. Radio Bartas nous fera découvrir La Pompe, un projet de tiers-lieu qui va bientôt ouvrir à Florac, en Lozère. Un rassemblement a eu lieu à Montpellier début janvier en réaction à la dernière décision de justice dans l'affaire Sarah Halimi. Cette Parisienne de 65 ans, victime d'un meurtre antisémite en 2017, un sujet de Radio Aviva. L'actuelle exposition au Carré d'Art de Nîmes nous replonge en 1886, à la rencontre de l'explorateur Paul Soleillet et du poète Arthur Rimbaud dans la Corne de l'Afrique. Radio Alliance Plus nous en parlera. Et nous refermerons ce journal avec du rugby. À Céret, sous-préfecture des Pyrénées-Orientales, un club de rugby évolue en Fédéral 1 depuis 2 ans, avec à sa tête la seule femme présidente de ce championnat. Radio Vallespir l'a rencontrée. Bienvenue dans le carnet de région, l'actualité d'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présentée par les radios associatives de la région. Vous connaissez peut-être le Mont-Aigoual et son observatoire météorologique historique. Avec ses 1567 mètres d'altitude, ce site remarquable est le point culminant du département du Gard et domine le versant sud des Cévennes face à la Méditerranée. Eh bien, le bâtiment de l'observatoire est en train de se refaire une jeunesse. Il va très prochainement héberger un centre d'interprétation et de sensibilisation au changement climatique. Martin Delors est maire du village de Lanuéjol. Il fait partie du comité du pilotage de ce projet qui est porté par la communauté de communes Causse-Aigoual-Cévennes-Terre solidaire. Il nous livre quelques clés de ce projet hors normes au micro de Radio Escapade.
On va faire un projet pour sensibiliser le public, le grand public, à ce problème d'évolution des climats et en même temps pour les informer sur des bases scientifiques réelles. Donc on a fait travailler des architectes à un bureau d'études, y compris un bureau d'études scientifique. On est abouti à un projet assez important en montant financier, 3,5 millions d'euros, et on a été à la chasse aux subventions, comme on fait toujours quand on est une petite collectivité. On a obtenu assez rapidement 80% de financement. La première subvention qu'on a eue, c'était à l'époque de la COP21. On a attaqué, là, les travaux sont en cours. Les travaux sont vraiment en cours, ils seront finis, on va dire, globalement dans un an, quoi. On a surtout, et c'est sur ça que j'insiste maintenant, plus que sur les travaux ils se font, c'est qu'il y a un comité scientifique de haut niveau, si vous voulez, qui prépare le contenu de l'exposition. Alors, dans ce comité scientifique, on retrouve des gens du GIEC, le directeur qui vient de prendre sa retraite de la Cité de l'Espace de Toulouse, des gens de Météo France, des gens du Parc National, des gens d'université qui préparent un vrai contenu. C'est des gens qui se passionnent, parce qu'ils sont bénévoles dans ce comité, qui se passionnent pour faire une présentation didactique à la portée de tout le monde sur cette problématique du changement climatique. En même temps, si vous voulez, et ça me paraît très important, une salle d'exposition temporaire dans lequel seront abordées des problématiques comme par exemple changement climatique forêt, changement climatique ressources en eau, changement climatique agriculture, changement climatique migration de population, et qui seront quelquefois aussi intéressantes, si vous voulez, ces expos temporaires sur des sujets de société, sur des sujets qui font peur un peu au public, autant que l'exposition elle-même qui sera une explication de pourquoi on en est là, etc. Vous voyez, bon, accessoirement, ça va évidemment apporter une nouvelle forme de tourisme, de culture scientifique qui va revitaliser l'ensemble du secteur au niveau, si vous voulez, économique. Ça, c'est quand même une chose intéressante aussi. Donc, si vous voulez, ça va devenir un lieu de vie tout à fait différent de ce que c'est actuellement. Ça correspond au fait que tout ce territoire, y compris la Lozère, a été classé réserve internationale de ciel étoilé. Il y a une labellisation patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, il y a des atouts pour faire que ce projet culturel, moi, c'est ça qui me plaît, si vous voulez. On va parler, j'en ai parlé tout à l'heure, d'un projet de développement touristique, mais c'est plus que ça. C'est un vrai projet de culture scientifique et un projet de société.
Malgré les conditions climatiques extrêmes au sommet, les travaux avancent bien. L'objectif étant que la partie extérieure soit achevée pour début juillet et le passage du Tour de France au Mont-Aigoual. L'exposition, elle, devrait ouvrir ses portes dans le courant de l'année suivante. Retrait du groupe de La République En Marche. C'est sous cet intitulé que la députée de la 4e circonscription du Gard, Annie Chapelier, a annoncé sa démission du mouvement de La République En Marche, tout en restant apparentée à la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. La députée gardoise dit rester fidèle à Emmanuel Macron, mais ne se reconnaître en rien dans ce qu'est devenu LREM, ne retrouvant plus aucune des valeurs qui ont été à l'origine de son engagement dans ce parti.
Lorsque je me suis engagée en politique et que je me suis inscrite à La République En Marche, c'était sur plusieurs promesses et sur une vision d'ensemble qui était celui des renouvellements des pratiques, celui d'introduire une démocratie participative, celui de faire jouer l'intelligence collective, celui d'être un parti différent avec une grande transparence, mettre en œuvre le plus d'honnêteté possible, œuvrer pour amener justement cette transparence, amener ce renouvellement, amener aussi la rénovation tout simplement des pratiques, mais également la rénovation du fonctionnement. Et au bout de 2 ans et demi, et le constat pour moi a été sans appel, lumineux, à savoir que ce qu'était devenu le mouvement, le parti La République En Marche, n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était initialement. Le mouvement, c'est n'importe quoi. Ils vont perdre le peu d'adhérents qui leur reste s'ils continuent à s'obstiner, à vouloir fonctionner de façon aussi verticale et à refuser ces nouveaux modes de fonctionnement, ces nouveaux modes de gouvernance pour lesquels nous sommes venus. À l'approche des municipales, la Commission nationale d'investiture a été mise en place. J'ai fait remarquer que cette Commission nationale d'investiture accentuait, soulignait encore plus la fracture territoriale car elle n'est constituée quasiment que de Parisiens. Et cela ne leur permettait pas de comprendre ce qui se passait dans chaque territoire qui a ses spécificités. Nous n'avons pas de liaison avec le parti. Nous ne communiquons pas, nous ne nous voyons pas. Monsieur Guérini dit qu'il rencontre les députés tous les jeudis matins. Je l'ai appris lorsque je l'ai informé de ma décision de quitter le parti. Jusqu'alors, j'ignorais qui le privilégiait ces jeudis matins pour nous rencontrer.
La majorité qui comptait 313 députés à la fin de l'été 2017 ne dispose désormais que de 301 élus. Toutefois, Annie Chapelier dit conserver sa confiance envers le président de la République. Si donc Annie Chapelier reste fidèle à Emmanuel Macron, elle est désormais apparentée au groupe parlementaire de La République En Marche, rejoignant ainsi 7 autres députés qui ont déjà souhaité se mettre en retrait du mouvement. Un retrait qui permet à Annie Chapelier de retrouver sa liberté de parole et d'assumer ses prises de position. Un sujet d'Yves de Fagot pour Radio Grille Ouverte. La Pompe est un projet de tiers-lieu à Florac, en Lozère. C'est un atelier de création partagée et collaboratif à la croisée de l'artisanat et du numérique, du professionnel et du passionnel. Un lieu convivial équipé de machines et d'outils dans lequel les usagers peuvent créer, réparer et inventer des objets. Arthur, co-créateur de La Pompe, nous explique tout ça au micro de Radio Bartas.
Ça va faire un an et demi bientôt qu'on est sur un projet de tiers-lieu à Florac. En fait, le projet est axé de manière générale autour d'un atelier partagé. L'idée d'un atelier partagé, c'est vraiment de venir mutualiser des outils qui peuvent revenir très cher à l'investissement pour une personne. Et l'idée, c'est de vraiment travailler sur la mutualisation de ces outils, ces machines-outils, pour pouvoir avoir le maximum d'utilisateurs sur un maximum de machines. Ici, on partirait sur un atelier bois, donc une menuiserie, un espace métal, donc pour le travail de l'acier, soudure, pliage, cintrage, etc. Et un espace, dans l'idée, un espace Fab Lab. Donc le Fab Lab, c'est ce qui touche plus à la création, qui touche au numérique, donc avec de l'assistance numérique, donc impression 3D, découpage numérique ou laser. Et enfin, le dernier, qui est en fait l'atelier existant aujourd'hui, on intégrerait l'atelier du service propagande, qui est une association floracoise qui fait de la sérigraphie, et du coup on aurait un axe sérigraphie au sein des ateliers. En fait c'est parti d'une réflexion entre autres avec Robin, où un jour on s'est dit c'est vrai qu'on aimerait bien faire des projets ensemble de construction, donc on a commencé à chercher un local. Et en fait, derrière, on a eu d'autres échos de gens qui nous disaient « Ah bah ouais, moi aussi, ça nous intéresserait. » Et petit à petit, ça a fait son travail d'aimant où on a eu des gens qui s'intéressaient au projet. Et en fait, il y aura l'atelier partagé, qui sera un grand espace de 100-150 mètres carrés. Et après, là-dedans, à côté, il y aura des îlots de 5-10 mètres carrés qui seront des îlots plus privatifs pour des artisans. Donc aujourd'hui, on a déjà 2-3 personnes qui sont intéressées, donc une bijoutière, une artiste, artiste peintre et une couturière, l'idée de tremplin est vraiment importante. C'est ça, c'est d'avoir des espaces, donc un espace mutualisé fait que déjà les gens peuvent avoir un espace, ce qui est très compliqué sur Florac, oui. Et en plus à des prix plutôt intéressants et avec une notion de partage et de partage de connaissances et de matériel qui, on pense, mène forcément plus loin que de travailler tout seul dans sa cave.
D'un simple espace de création, la pompe souhaite devenir une manière de penser et devenir le label d'un processus de réflexion socio-professionnelle. Ils ouvriront leurs portes dans moins de 2 semaines pour une inauguration en grande pompe. Vous pourrez les retrouver sur leur site internet atelier-lapompe.com. En avril 2017 était assassinée Sarah Halimi, parisienne de 65 ans de confession juive. L'auteur du meurtre vient récemment d'être reconnu pénalement irresponsable par la cour d'appel de Paris. La raison, la prise de cannabis aurait altéré son discernement. C'est pourquoi le 5 janvier 2020, une mobilisation nationale a été organisée, notamment à Montpellier dans l'Hérault, où Hussein Bourgi s'est exprimé au micro de Raphaël Larcher de Radio Aviva. Pour le conseiller régional d'Occitanie, ce sont bien tous les citoyens qui s'émeuvent de cette décision, Hussein Bourgi.
Vous comprendrez bien que la famille de Sarah Halimi et plus largement la communauté juive en France et plus largement la communauté nationale est choquée par une décision de cette nature-là, parce que là où la consommation d'alcool ou de drogue serait une circonstance aggravante, dans cette affaire précise, elle serait une circonstance atténuante. Et donc, il s'agit d'un déni de justice. C'est une façon d'assassiner une deuxième fois Sarah Halimi en ne lui rendant pas justice.
Et dans le cas où il n'y aurait pas de jugement de cette personne, quelles seraient les conséquences ?
Alors là, l'affaire est pendante devant la Cour de cassation parce que les avocats de la famille de Sarah Halimi ont saisi la Cour de cassation pour obtenir justement l'infirmation de la décision qui a été prise jusqu'à présent. Nous faisons confiance à la justice de ce pays, mais à travers notre présence dans la rue, nous interpellons aussi les autorités gouvernementales et la ministre de la Justice parce qu'il lui appartient aussi en tant que garante de l'état de droit. En fonction de ses responsabilités, de veiller à ce que dans cette affaire-là, les droits de la victime, les intérêts de la victime qui n'est plus là, ne soient pas spoliés. Il s'agit de droits, d'intérêts moraux pour elle, d'être justement reconnue en tant que victime et de reconnaître le caractère antisémite de ce qui s'est passé. Parce que si aujourd'hui on vient à déclarer ce coupable, de mon point de vue, il l'est. Et du point de vue des faits qui se sont produits, il l'est. Mais si on venait à le déclarer pénalement irresponsable, vous comprendrez bien que c'est une porte ouverte à tous les faits qui pourraient se produire dans le pays. Et à chaque fois que quelqu'un viendrait à commettre un délit, un crime, il pourrait objecter le fait qu'il était sous l'emprise de cannabis. Et donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une affaire uniquement Sarah Halimi. C'est une affaire qui interpelle la nation dans son ensemble. Donc il y a aujourd'hui, à travers cette affaire, à travers cette situation, quelque chose qui doit interpeller tout le monde, qui doit tous nous mobiliser, et c'est le sens de la présence aujourd'hui dans les rues de Montpellier, comme à Paris, comme ailleurs dans les autres villes de France.
Hussein Bourgi, conseiller régional d'Occitanie. Les avocats de la partie civile se sont pourvus en cassation. Pour rappel, 70% des juifs français disent avoir déjà vécu des actes antisémites, selon un sondage IFOP paru récemment. Ces mêmes actes ont augmenté de 27% entre 2018 et 2019. En 1886, les destins d'un explorateur reconnu, Paul Soleillet, et d'un poète alors inconnu, Arthur Rimbaud, se croisent dans la Corne de l'Afrique. L'exposition au Carré d'Art de Nîmes se propose de faire revivre les circonstances de cette rencontre et, plus largement, de la situer dans le contexte historique et géographique de l'époque. À cela, l'exposition ajoute un regard critique sur cette période en y apportant une vision contemporaine. La présentation des documents est d'une très grande richesse. De nombreuses activités seront proposées au fil de ces 3 mois, comme va l'expliquer Alexandre Moreigne, responsable de l'action culturelle et de la mission éducative des bibliothèques de Nîmes. Mais écoutons en premier Didier Travier, conservateur des bibliothèques de Nîmes.
Il y a un personnage très connu, il y en a un qui n'est pas du tout connu, mais à l'époque où il vivait, c'était absolument le contraire. Quand Soleillet est mort, toute la presse en a parlé. Et donc, effectivement, c'était un personnage qui avait une certaine notoriété. Et les deux hommes, donc l'explorateur nîmois Paul Soleiller et Arthur Rimbaud, se sont rencontrés autour de l'organisation d'une caravane d'armes à destination de Ménélik. Donc c'est quand même une histoire assez romanesque. Et donc on a voulu reconstituer un peu ce moment, mais en l'entourant aussi de son contexte historique et géographique. C'est une exposition, il y a de très très belles photos anciennes de cette région de la Corne de l'Afrique. Et on a voulu aussi reconstituer l'itinéraire complet de Soleiller, puisque les Nîmois connaissent peut-être ceux qui habitent le quartier Montory, la rue Soleiller, mais ne connaissent certainement pas toute l'exploration de l'Afrique au Sahara, au Soudan et enfin en Éthiopie qu'a mené Paul Soleiller.
Alors le Carré d'Art a vraiment comme volonté de faire connaître l'exposition, de drainer beaucoup de monde. Donc vous, Alexandre Moreigne, vous organisez toutes les rencontres.
Voilà, alors on a essayé de couvrir un petit peu tous les domaines comme à notre habitude, cinéma, musique, littérature, mais aussi pour le coup histoire. On revient beaucoup sur le contexte géographique et historique de cette exposition. Alors on va proposer une petite vingtaine d'événements sur 3 mois. On va mener un programme tambour battant avec des spécialistes qui interviendront pour présenter l'Éthiopie avant et aujourd'hui, l'histoire de Rimbaud avec un grand professeur comme Pierre Brunel par exemple, et l'histoire de Paul Soleiller avec un universitaire qui est Odon Abal.
L'exposition est gratuite et se déroule à la bibliothèque du Carré d'Art jusqu'au 25 avril 2020 sur le mur Foster au rez-de-chaussée et dans la galerie de l'Atrium du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plus d'infos sur les sites internet nîmes.fr ou bibliothèque.nîmes.fr. C'était un reportage de Sylviane Vichegrotte-Magnette de Radio Alliance Plus. À Céret, sous-préfecture des Pyrénées-Orientales, un club de rugby évolue en Fédéral 1 depuis 2 ans. Le Céret sportif, avec une particularité dans ce monde d'hommes, il faut bien le reconnaître, d'avoir à sa tête une présidente, la seule en Fédéral 1 actuellement. Nous retrouvons Cathy Delcamp, présidente, pour une question évidente. Comment devient-on présidente d'un club de rugby en Fédéral 1 ?
Mais je crois que j'ai été un peu prise, j'allais dire, au piège. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est une bande de copains qui seraient réunis. Ils m'ont proposé, par rapport à mon compagnon qui était un ancien joueur et qui est décédé depuis 2 ans et demi, de partir avec eux. Donc j'ai dit oui. Et puis quand on s'est retrouvés, les 5 garçons et puis moi comme seule femme, ils ont décidé que j'étais présidente parce que j'étais la seule femme. Voilà. Et bon, je n'ai pas refusé parce qu'en même temps, je me sentais bien épaulée. Donc je crois que présidente d'un club de rugby, ben, c'est pas évident parce que c'est un, j'allais dire, c'est un, on trouve beaucoup d'hommes et c'est des fois un peu compliqué. Mais au niveau de Céret, il n'y a aucun souci, ni avec le staff, ni avec les entraîneurs et pas du tout avec les joueurs avec qui ça se passe merveilleusement bien. C'est pas évident, mais bon, physiquement, des fois j'ai un petit peu l'air ridicule hein, parce que quand je parle avec les joueurs, je monte sur des marches pour être à leur hauteur. Mais non, moi ça ne me gêne pas, je me sens bien. Non, il n'y a aucun souci. Le rugby catalan, mai mourirai, mi s'imprenne de ban.
Cathy Delcamp, présidente du Céret sportif. Gérard Fons, l'un des co-vice-présidents du club, nous explique les particularités de passer d'un championnat de Fédéral 2 à Fédéral 1.
La grande différence, c'est le niveau des gens de compétition. Fédéral 1, il y a quand même un fossé par rapport à la Fédéral 2. C'est amateur. Fédéral 1, on est encore amateur. Alors c'est vrai que dans notre poule, on a des clubs qui sont professionnels. Sur les 12 clubs, il y a 6 clubs qui sont professionnels, avec une trentaine de contrats minimum, alors que nous, nous sommes entièrement amateurs. Voilà, donc il faut qu'on trouve des ressources, et effectivement, la Fédérale 1, ça coûte plus cher que la Fédérale 2. De l'ordre de deux fois, il faut 2 fois le budget de Fédérale 1 pour jouer en Fédérale 2, pour jouer en Fédérale 1. Le budget prévisionnel du Céret sportif est de 650 000 euros. Voilà, 650 000, bon, c'est ce qu'on a aujourd'hui estimé comme étant viable au niveau de notre club et notre petite ville de Céret avec les environs, parce que Céret, c'est le Val-Espire. Et la question qu'il faut se poser, quand je dis peut-être, c'est sûrement, c'est envisager une fusion, envisager un regroupement de clubs, parce que si on veut durer et pérenniser le rugby de haut niveau, parce que c'est du haut niveau qu'on pratique en Fédéral 1, il faut peut-être envisager des regroupements avec des voisins. On résiste, on fait de la résistance à Céret.
Gérard Fons, co-vice-président du CRS Sportif. C'était un reportage d'Éric Morin de Radio Vallespire. C'est déjà la fin de ce carnet de région. Un grand merci aux radios associatives qui ont aidé à le préparer. Merci aussi aux radios qui le diffusent. Et merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. À la semaine prochaine.